Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci à Anne-Lorraine Bujon, Frédéric Worms, aussi Anthony Dequil, cette opportunité qui m'ont donné de vous parler de mon travail sur Genval et aussi de contribuer pour que les noms de Genval résonnent à nouveau dans les couloirs de cette université. Je vous demande de garder quelques instants ces images du poème de Genval que Barbara Val a lu, qui a été publié dans le 7e numéro de la revue Esprit en avril 1933. Il a paru en fait en deux versions, une française, qui c'est la version que Barbara a lue, et une anglaise aussi, une version anglaise qui contient un vers supplémentaire que sur lequel je vais parler à la fin aussi. Parlons d'abord un peu de quelques relations de Val et d'Esprit. Les contributions de Val à la revue comprennent, outre ces poèmes-là, des autres poèmes parus dans le numéro 86-87 en 1939 et républiés en partie par Val dans son recueil Poèmes de 1944. Il a aussi publié dans Esprit un solide dictionnaire individuel fait d'entrées arbitraires et définitions qui ne vont pas de soi et qui figure dans le numéro 89 de 1940 et fut republié dans le livre de Val de 1948, Poésie, pensée, perception. Il a aussi deux textes sur Jean Val en Esprit, un profond article de Ricoeur de 1957 sur les traités de métaphysique de Jean Val et une brève note critique sur les tableaux de la philosophie française écrite par Emmanuel Mounier lui-même en 1947. Outre ces relations plus directes, nous pouvons faire aussi un parallèle portant sur une certaine posture où sans jeu de mots, un certain esprit commun à Esprit et à quelques initiatives que Val a lancées pendant sa vie. Je pense à la revue De Calion et au Collège philosophique fondé par Val en 1946-47, après son retour de l'exil aux États-Unis. Cette posture, cet esprit, est un esprit pluraliste et assez éclectique, disons. La revue Esprit, on le sait, est depuis sa création, et selon une expression qu'on retrouve dans ses propres pages, une revue à plusieurs voix, comme le souhaitait Mounier lui-même. Presque dans les mêmes termes, Val dira de son collège philosophique lors de sa fondation qu'il devrait être un chœur à multiples voix, comme un chœur multiple voix, c'est-à-dire un rassemblement de diversité. Donc, Esprit a une revue à plusieurs voix, et le Collège philosophique de Genval désirait qu'il était un chœur à multiples voix. C'est presque la même chose. Il sait bien ce qu'il a été tout au long des 20 ans, ce Collège philosophique. Un vrai kaléidoscope culturel, selon les mots de Xavier Thiet, et l'endroit où, comme le dit Lacan, se croisaient Jean Val invitant le fièvre d'alors. Le penseur le plus divers parmi les philosophes, les scientifiques, les artistes ont donné des conférences au Collège philosophique, de Sartre à De Broglie, de Levinas à Brodel, de Lacan à Pierre Boulez, d'Eugène Ionesco au mathématicien André Lichnerowicz, de Robert Grivier à l'anthropologue Leroy Gourhan, deux chercheurs déjà expérimentés à l'époque comme Bataille, Jean Clévit et Rouillet, à deux chercheurs encore débutants comme Deleuze, Derrida ou Adot. Et la revue de Calion, par son tour, dont six numéros ont été publiés en 11 ans, nourrissait aussi le même type d'esprit pluraliste, bien qu'elle soit peut-être plus strictement orientée vers la philosophie que le collège. Mais c'est intéressant de noter que dans le troisième numéro de De Calion, nous pouvons retrouver une autre rencontre entre Val et Esprit qui est un article posthume de Paul Landsberg. C'est important, figure de l'histoire de la revue. Dans son introduction à ce texte, Valle lui-même célèbre l'importance de Landsberg pour la philosophie française, tout en citant les noms et les déclarations à son respect de Emmanuel Mounier dans Esprit. Et voilà. Sur cette posture pluraliste ou éclectique que je remarque chez Esprit et chez le Collège philosophique et de Calion, de Jean Valle, on doit dire qu'elle n'est pas gratuite ni animée par le simple hasard. Toutes ces initiatives présentent une cohérence particulière qui persiste ou qui se construit à l'arrière-plan, liée surtout à une envie fondamentale d'exprimer et plus que ça, de participer à la production d'une pensée digne de l'époque présente. Mais il convient de mettre alors que la cohérence qui s'insinue au fond de plusieurs voies d'esprit n'a pas la même nature que la cohérence dessinée par les initiatives de Jean Valle. Chez Esprit, il s'agit plutôt d'une cohérence, même si elle est ouverte, changeante, politique et critique. Pour Valle, la question est en grande partie de suivre les transformations que la pensée en général subissait à son temps et d'en tirer des conséquences métaphysiques. Malgré cette différence, il y a quand même cette convergence autour d'une tendance pluraliste ou de la compréhension que la pensée ne se renouvelle et ne se produit qu'à multiples voies, à plusieurs voies. Et nous pouvons reconnaître une telle tendance et une telle compréhension au fond d'autres initiatives de la même période des années 30 aux années 50. Comme la revue Recherche philosophique, fondée par Coiré, à la même époque qu'Esprit, ou les collèges de sociologie, fondés en 1937 par Bataille, ou même la revue Le Temps moderne, créée en 1945 par Sartre et Simone de Beauvoir. Et Valle a contribué à tous les trois. De sorte qu'il est possible de trouver peut-être, sinon, un aspect déterminant de la période, cette période des années 30 aux années 50, nous pouvons trouver peut-être une tendance que cette époque a accueillie et contribué à faire proliférer. Tout en partant d'un parallèle entre Esprit et Jean Valle et ses initiatives, nous sommes arrivés à la question du moment philosophique qui s'étend des années 30 aux années 50. Les années 30 dans la philosophie française sont souvent pensées sous le signe d'une rupture complète ou au moins d'un changement de direction. De la recherche de l'esprit, la philosophie bascule vers la recherche du concret. Le concret devient ainsi une sorte de mot de passe ou mot d'ordre, comme le dit Frédéric Worms. En 1951, dans un moment donc où la pensée qui est né dans les années 30, s'est déjà consolidé et devenu hégémonique, Émile Breillet dira qu'il faut, je cite, « chercher l'origine de la philosophie contemporaine, à ce moment-là, dans un mouvement énergique vers le concret ». Et Breillet ne le dit pas sans rappeler immédiatement que c'est là le titre d'un bel ouvrage de Jean Valle. Si bien que le titre du livre de Jean Valle de 1932, « Vers les concrets », peut être pris comme une espèce de symbole de la pensée de l'époque ou comme une formule capable de résumer les aspirations de philosophes qui ont cherché à être à la hauteur de son temps. Au-delà de cela, on peut dire encore que ce livre, grâce à son parution précoce, revêt peut-être le caractère d'un geste inaugural du nouveau mouvement philosophique, bien que d'autres textes ont anticipé ce moment à la fin de la décennie précédente. Pour cette raison, l'année philosophique 1932 peut également être considérée comme un premier jalon de ces moments philosophiques des années 30 aux années 50. Ou encore, en essayant de répondre à la question du titre de notre rencontre ce soir, on peut dire que quand des événements qui rend l'année 1932 digne d'être appelée une année philosophique et le caractère inaugural qui lui confère la sortie de vers le concret. En ce qui concerne cette ambition du concret caractéristique du nouveau moment, traduite dans toute sa pureté dans le titre du livre de Val, on peut dire en général qu'elle est liée à une aversion à l'idéalisme et au spiritualisme, aussi que à l'envie de se tourner vers l'expérience réelle et la vie réelle des êtres humains. Mais c'est très général comment à des différentes pensées qui ont émergé à partir des années 30 ne suffit pas à faire croire qu'une seule idée du concret anime toutes ces pensées nouvelles. Il y a de différentes notions et de différentes démarches du concret. Et Val, même s'il a énoncé la formule synthétique vers le concret, tout en lui attribuant la signification d'un diagnostic historique de la philosophie contemporaine, il nourrit, lorsqu'il est fait, son propre désir du concret, comme le dit Xavier Tiet. Il est donc en train de formuler sa propre philosophie du concret. En ce qui concerne cette philosophie singulière de Val, dont l'importance et l'influence décisive sont encore à être redécouvertes, je voudrais proposer aujourd'hui que vers le concret joue également le rôle d'un ouvrage inaugural, ce qui fait de 1932 un jalon fondamental aussi de la philosophie valienne et renforce l'aspect d'année philosophique de 1932. Val, il avait déjà publié 4 livres avant cette année-là. Ses thèses doctorales sur le pluralisme et sur Descartes, aussi que l'étude sur les Parménides de Platon et les malheurs de la conscience dans la philosophie de Hegel en 1929, ce dernier, Platon 1926 et les thèses 1920. Dans tous ces 4 monographies, malgré la rigueur des analyses proposées par Val, il est certain qu'il développe toujours sa pensée singulière. Pourquoi alors sera-t-il valable ou même intéressant donc de qualifier vers le concret d'ouvrage inaugural? Bon, parlons un peu de vers le concret et je pense que je vais expliquer. Vers le concret est un recueil de 4 articles ou de 3 articles précédés d'une préface. Ces 3 articles conservent le ton monographique de livres précédents de Val, chacun portant sur la philosophie d'un penseur particulier, à savoir William James, Whitehead et Gabriel Marcel, dont les deux premiers articles avaient déjà été publiés en 1922 et 1931 dans la revue philosophique de la France de l'étranger. Et le troisième sur Marcel a été publié en 1930 dans la revue de métaphysique de morale. La préface elle-même a été publiée aussi dans les premiers numéros de la revue Recherche philosophique en 1932, un peu avant la publication du livre. Mais cette préface est en réalité plus qu'une simple préface. C'est un article qui se suffit à lui-même. En effet, c'est un texte qui fait de vers les concrets l'ouvrage inaugural de la philosophie valienne, tout en donnant un nouveau sens aux autres articles de ce livre. Au premier abord, ces textes de la préface de Vers le concret semblent proposer un diagnostic historique sur la philosophie contemporaine, ou plus précisément sur la philosophie des dernières décennies du XIXe siècle au premier du XXe. Ce sont les différents penseurs et les différents courants philosophiques de cette période-là, relativement longue, qui participent, selon l'hypothèse de Val, un vaste mouvement vers le concret, de Kierkegaard, Nietzsche et Bergson, à Whitehead, Marcel, Heidegger, en passant par Bradley, James, Russell, Husserl, le néo-kantisme et même Freud et le matérialisme historique. Cela veut dire que même si Valle est un représentant du nouveau moment philosophique qui naît dans les années 30, il ne l'est pas, au moins si on considère sa propre vision, sous les modes de la rupture, mais plutôt sous les modes d'une continuation ou d'une radicalisation d'une tendance léguée par les générations antérieures. Cette même perspective sera adoptée 20 ans plus tard par Valle dans son traité de métaphysique sous la forme de l'affirmation d'une révolution philosophique en cours depuis le 19e siècle, dont il s'efforce dans ses livres, le traité de métaphysique, à dégager les effets et à indiquer avec ses propres idées et ses propres propositions quel sera l'aboutissement approprié. De sorte qu'on peut dire que le diagnostic historique de la philosophie contemporaine chez Valle ne vise pas seulement à en préciser les antécédents les plus immédiats et à déterminer la condition actuelle, mais Valle veut surtout contribuer à la création philosophique. Il vise la philosophie future. Cela est vrai tant pour les traités de métaphysique que pour la préface vers les concrets, où le diagnostic historique assume, à travers la forme descriptive de l'histoire de la philosophie, l'aspect prescriptif d'une vraie affirmation philosophique. Voilà pourquoi ce livre de 1932 peut être considéré, grâce à sa préface, l'ouvrage inaugural de la philosophie valienne. C'est la première fois que Valle dépasse la description et même l'interprétation historique et monographique pour défendre et prescrire une perspective philosophique particulière. Valle ne le dit pas directement, c'est vrai, mais comme est d'ailleurs typique de sa méthode de création, il nous le fait sentir ou pressentir. Et il le fait tout au début de sa préface, dont la première section est consacrée à une défense explicite de la pertinence philosophique et de la portée métaphysique de l'empirisme et du réalisme contre les accusations que la tradition rationaliste l'adresse habituellement. Tout en défendant l'empirisme et le réalisme de la critique hegelienne du prétendu caractère vide et abstrait de la certitude sensible, aussi que de la supposition kantienne de la nécessité de la raison pour qu'il puisse y avoir la synthèse du donné, Valle postule, à l'aide de toute la pensée contemporaine, l'irréductibilité en dernière instance du réel à la raison, aussi que l'aspect immédiatement synthétique du donné sensible, indépendamment de l'interférence de la pensée. Et en le faisant, il arrive enfin à affirmer qu'il est toujours possible à l'empirisme et au réalisme d'aller au-delà du simple témoin du donné et de se poser la question de la nature du donné et du réel, c'est-à-dire poser la question de l'être à partir de la perspective de son irréductibilité à raison. Ou en somme, qu'il est possible de faire une métaphysique empiriste réaliste à laquelle Valle appelle un empirisme de second degré. Or, on ne doit pas oublier que Valle conduit cette défense, cette affirmation de la portée métaphysique de l'empirisme dans le contexte de son diagnostic de la philosophie contemporaine, ce qui signifie que, en caractérisant cette philosophie par les mouvements vers les concrets qui donne le titre de son livre, il la définit comme une pensée à la tendance empiriste et réaliste, malgré les faits qu'elle recouvre aussi des pensées ouvertement anti-empiristes, comme ceux de Bradley, de Husserl et Heidegger. Plus que se demander sur la pertinence de cette caractérisation empiriste de la pensée contemporaine, ce qui n'est pas négligeable, ce qui importe ici est d'en avoir d'en voir une certaine partialité de Val, c'est-à-dire le fait qu'il interprète les auteurs à travers le filtre de sa propre pensée, de son propre goût philosophique, pour y trouver donc les problèmes de sa propre philosophie. En diagnostiquant d'envers les concrets les prétendus empirismes et les réalismes de la pensée de son temps, et plus encore, en défendant la portée métaphysique de l'empirisme et du réalisme, Val affirme son propre empirisme et plus que cela, il le développe, ce qu'il fera dans les sessions suivantes de la préface, en décrivant les principaux traits de la tendance historique qu'il veut diagnostiquer. Aujourd'hui n'est pas l'occasion pour discuter tous ces aspects qui comprennent une démarche existentielle des concepts philosophiques liés à une réhabilitation des qualités secondes et à une conception originale et affective de la dialectique. Cette conception, inspirée de Kierkegaard et Bergson, et à travers laquelle Val donne une image du réel qui saisit sa nature dans une oscillation entre la continuité et la discontinuité, entre l'intériorité et l'extériorité des choses ou du temps. Pour retourner enfin au poème que couvre cet exposé lu par Barbara Val, restons un peu sur cette ambition centrale de la philosophie valienne affirmé pour la première fois dans la préface à Vers les concrets, ce qui donne à ce texte son statut inaugural. C'est l'ambition de proposer une métaphysique empiriste et réaliste ou de trouver dans l'expérience perceptive, en ce qu'elle a d'irréductible à la raison, la réalité métaphysique ultime ou l'être, comme Val dit parfois, faute de meilleurs mots. Sans pouvoir faire recours à la raison pour combler la distance entre l'expérience et la spéculation, entre le réel et l'esprit, et pour expliquer comment la métaphysique empiriste est capable de donner une vraie réponse à ces questionnements autour de l'être, Val conclut sa préface par l'affirmation que cette distance irréductible est surmontée à l'aide d'une vision mystique, à travers une expérience toute proche, non pas de l'expérience scientifique, comme des autres métaphysiciens modernes le souhaitent, mais de l'expérience religieuse. Cela ne veut pas dire que la métaphysique de Val fait appel à la figure de Dieu pour remédier à ses problèmes, mais plutôt qu'elle repose sur l'idée de transcendance, de dépassement de l'esprit. Il faut penser donc à un double dépassement. L'esprit se dépasse à lui-même vers le concret, à travers l'extase de la perception, comme le dit Val, mais il dépasse aussi le concret en tant qu'expérience immédiate des particularités d'existence réelle vers son principe général. Val ne donne qu'un aperçu fugitif de cette idée à la fin de la préface à Vers les concrets, mais il s'agit d'une idée fondamentale de sa philosophie qui habite déjà son esprit à ce moment inaugural en s'exprimant dans ses premiers articles autour de Kierkegaard et dans les poèmes L'objet, publié en 1933. D'un esprit. Retournons donc à ces poèmes pour finir. Val chante l'objet. Pas n'importe quel objet en général, mais un certain sombre objet solitaire. Cet objet est une présence divine, écrit-il dans les vers supplémentaires qu'on trouve seulement dans la version anglaise du poème. Je pense que c'est une raison d'une erreur éditorielle ou de Jean Val lui-même dans la traduction. Parce qu'il a écrit d'abord en anglais, il a traduit au français. Mais cet objet divin n'est pas une présence sublime et harmonieuse descendue du paradis comme la musique des collines, ni de la raison comme création magique de l'âme, c'est-à-dire de l'esprit. Cet objet divin est plutôt comme l'ange contre lequel Jacob engage une lutte acharnée dans le désert et qui est le visage même de Dieu, qui finit par le bénir de sa touche créatrice. Cet objet est chargé de la colère à laquelle l'autre Jacob, c'est-à-dire Jacob Bohm, le philosophe mystique allemand, a attribué une puissance aussi divine que l'amour de Dieu. Cet objet appartient, conclut Val, à une basse sagesse, mais toujours une sagesse de la transcendance. Val nous remet ainsi à un sujet qu'il posera plus tard dans une conférence de 1937 intitulée « Subjectivité et transcendance ». C'est le sujet de la transascendance et de la transdescendance. En gros, ça veut dire qu'on peut attendre la transcendance ou qu'on peut dépasser l'expérience vers son principe métaphysique, soit par les hauts, soit par les bas. Il ne s'agit pas toutefois de la question du bien ou du mal, de la béatitude et du péché, mais de deux sortes de mouvements de transcendance. Un mouvement qui place le principe métaphysique au-dessus de l'expérience et un autre qui les place au bas ou au fond de l'expérience, caché dans le concret lui-même. La métaphysique de Val ne préfère pas un mouvement à l'autre, elle les retient tous les deux et laisse l'un mener à l'autre. Le fait que l'objet du poème soit toujours divin, le fait qu'il soit solitaire ou séparé, est le signe de sa hauteur et de la transascendance qu'il nous demande. Mais qu'il soit sombre, qu'il soit bas, qu'il concerne la vie intérieure du rocher et de la terre, est le signe de sa mondanité et de la transdescendance qui conduit. Cet objet divin chez Val, par son aspect transdescendant, n'est donc pas un dieu. Il n'est pas une affaire de religion, mais de métaphysique. Et la transdescendance est une transcendance vers l'immanence de la physis. C'est pourquoi l'objet sombre, la présence mystique, en somme, les principes métaphysiques qu'on trouve en dépassant les données particulières, est toujours écrivain dans son poème au milieu du rayonnement des choses. Car les choses sont à la limite l'autre côté de lui-même, comme l'écrit Val. Elles sont précisément ce qu'il donne tout en se retenant, comme il écrit. Ce sombre objet métaphysique est donc l'énergie des changements et des mouvements qui animent la nature de l'intérieur. Mais encore une fois, il faut reconnaître que ce n'est pas l'occasion d'approfondir cette idée. Nous avons un aimant à temps, au moins en partie mon but ce soir. D'un côté, vous exposez quelques relations que religion, Val et esprit. D'autre côté, vous montrez que vers le concret n'est pas seulement une sorte de jalon inaugural du moment philosophique naissant, mais également, par sa puissance affirmative, un geste inaugural de la philosophie de Val lui-même. Un geste qui s'accomplit dans la préface du livre de 1932 et qui se prolonge dans les poèmes publiés dans esprit quelques mois après, en 1933. Le geste d'une philosophie qui s'entend comme une métaphysique empiriste dont le principe transcendant de changement et de mouvance est tout caché à l'intérieur de l'expérience ou de la physis elle-même et ne peut être trouvé que par la voie d'un approfondissement de l'esprit dans l'expérience, c'est-à-dire une transdescendance vers le concret. Merci.